terror states, terrorist networks, terror states.
Nous ne sommes pas des terroristes, divergence numérique numéro 64. Et oui, déjà, votre émission sur les logiciels libres, le libre, vos libertés. Une émission qui est proposée par Gilles Gouget, Anaël Navarro, Pascal Ollier, et présentée ce soir par Anaël Navarro. Bonsoir.
Salut Pascal, comment vas-tu ?
Et par Pascal Ollier, moi-même, au micro. De quoi il sera question dans cette divergence numérique de Hadopi, l'Opsi, Wednes Again, comme je l'ai nommé, parce qu'en fait, on a encore des nouvelles. Encore des nouvelles du front, bien sûr, en première partie. En deuxième partie, nous recevrons Mathieu Beck de la médiathèque de Téhéran qui est parmi nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui nous parlera donc du libre dans la médiathèque. Et puis en dernière partie, nous aurons évidemment l'agenda du libre qui clôturera cette émission. Donc une émission encore très très riche et tout ça ponctué avec de la musique en licence ouverte. Mais tout de suite évidemment on retrouve
les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Et voilà, c'est le début pour les nouvelles du front. On va commencer tout doucement, comme chaque émission, sur des nouvelles informations sur les lois. Mais cette fois-ci, ce sera tout doucement, nous allons parler de la loi Hadopi. Donc, Frank Rester, la loi Hadopi n'est pas limitée à la musique et au cinéma.
La loi Hadopi pourrait être applicable à d'autres secteurs que le cinéma et la musique. C'est ce qu'a déclaré Frank Rester, qui était le rapporteur de cette loi et qui est maintenant membre du collège de la Hadopi, au cours d'une interview par l'Egypresse. Le membre du collège, donc de la haute autorité, a ainsi cité la presse, le livre ou encore l'audiovisuel.
Donc, initialement calibré pour contrer le piratage de masse qui ravageait prétendument les industries du disque et du 7e art, la loi Hadopi pourrait très bien intervenir dans d'autres domaines que la musique ou le cinéma. Donc, c'est ce que révèle Frank Rester, ancien rapporteur du projet de la loi à l'Assemblée nationale et actuel membre du collège de la haute autorité, dans un entretien accordé à l'Egypresse.
Souhaitant vivement que les premiers mails partent le plus vite possible, la loi doit être en marche en 2010, le député confie cependant que les décrets d'application ne sont toujours pas prêts. Il dit « cela devrait être dans les semaines qui viennent », a-t-il expliqué, sans pour autant être capable de fournir la moindre date, comme la semaine dernière d'ailleurs. Cela reste malgré tout une priorité pour le collège de la haute autorité d'avoir ces décrets très rapidement.
Donc, mais le plus intéressant est à venir. Donc, à la question de savoir si les éditeurs de presse pourront saisir la Hadopi, Frank Rester annonce la couleur. Donc, concernant les rôles et les missions de l'Hadopi, moi je fais partie de ceux qui sont très partisans que les missions de l'Hadopi ne soient pas focalisées uniquement sur la musique ni même le cinéma. C'est l'audiovisuel et plus largement la presse, le livre, bref, tout ce qui tourne autour de la bonne gestion des droits, du respect des droits et des œuvres sur Internet.
Et oui, parce que bien qu'on nous dise à l'Assemblée nationale ou même dans la presse, l'Hadopi, c'est une loi pour une loi de pédagogique, comme j'ai cherché le terme, pédagogique, pour ne plus pirater sur Internet les œuvres culturelles, MP3, films. Mais si on lit bien le texte de loi, il ne s'arrête pas là. Effectivement, ils vont jusqu'au bout, ils vont donc sur le livre, ils vont sur la musique, ils vont sur les droits, enfin sur la presse également, la presse, dans les bibliothèques aussi ils y vont, donc ils sont partout.
Mon Dieu, c'est vrai que les lois françaises sont très connues pour avoir été très pédagogues. Enfin bon, cet article nous était proposé par Numérama. Vous pouvez retrouver plus d'informations donc, sur notre site ou sur le site www.numerama.com. Je pense qu'on va passer sur une autre loi très pédagogue.
Et oui, une loi peut en cacher une autre.
Voilà, une loi peut en cacher une autre. Ou attention, sauf que là, on n'a pas de passage au niveau. La l'OPSI a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Et oui, comme prévu, le vote solennel de la loi d'orientation et de la programmation pour la sécurité intérieure, donc l'OPSI, L-O-P-P-S-I, c'est bien ces lois qui se terminent en I, a eu lieu mardi 16 février 2010 à l'Assemblée nationale. Et sans surprise, le texte a été adopté avec une confortable majorité, désormais le texte va être examiné par le Sénat avant de rentrer dans le corpus législatif. Donc c'est une première lecture et ça a été adopté donc en première lecture.
Pour le I, peut-être SI de inapplicable. Mais bon, pour la suite, 312 voix pour et 214 voix contre. Donc sans surprise, l'Assemblée nationale, réunie pour le vote solennel, a adopté la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Ah non, c'est intérieure, pas inapplicable. Donc la LOPSI. La majorité présidentielle a très largement soutenu ce texte, à l'exception notable de Michel Heinrich et Christian Van Est, qui se sont abstenus. Donc pour le Nouveau Centre a également voté pour, tandis que les autres formations politiques, Parti Socialiste, Communiste et Vert, se sont globalement prononcées contre.
Cependant, avant de devenir loi, le projet doit désormais être examiné par le Sénat. Si la Chambre haute vote le texte dans les mêmes termes que la Chambre basse, alors la LOPSI sera ensuite promulguée par le chef de l'État pour ensuite entrer en application. En revanche, si le texte est modifié à l'issue de son examen par le Sénat, le Parlement pourra essayer d'uniformiser les deux textes à travers une commission mixte paritaire, comme il y avait eu d'ailleurs sur la DOPI, composée de 14 parlementaires, 7 députés et 7 sénateurs. C'est cependant l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot si aucune solution n'est trouvée.
Si le projet sécuritaire est vaste, le chapitre concernant Internet a été particulièrement critiqué. Parmi les dispositions les plus polémiques, nous retrouvons le filtrage des sites pédopornographiques par les fournisseurs d'accès Internet, le déploiement de logiciels espions dans les ordinateurs ou encore la naissance d'un délit d'usurpation d'identité sur le web.
D'aucuns objecteront sans doute que l'installation des mouchards sera encadrée par les juges d'instruction afin de donner une légitimité judiciaire à ce processus. Cependant, Nicolas Sarkozy a programmé la mort prochaine du juge d'instruction. Il ne restera dès lors plus que le procureur de la République pour encadrer et surveiller ces dispositifs. Or, le procureur est lié au parquet qui lui-même est rattaché à la chancellerie.
Ah là là, c'est une sacrée histoire, hein.
Et oui, donc encore un article qu'on retrouve sur numerama.com. N'hésitez pas à suivre ces épisodes législatifs, comme d'ailleurs tous les liens que vous retrouvez aussi sur l'article de l'émission.
Oui. Bon, je crois que tu nous as décoté une petite musique en rapport avec notre dernier petit article. Non, c'est bien ça, je suis en train de voir le titre. L'espion de l'OPSI au rayon informatique de la supérette sécuritaire.
Exactement, une artiste prénommée La Parisienne Libérée qui sort donc des chansons très liées à l'actualité. Nous a donc concocté l'espion de l'OPSI. Avec un clip qu'on ne verra pas évidemment à la radio, mais dont on a quand même la bande-son, et donc ça s'appelle L'espion de l'OPSI par la Parisienne Libérée.
Ne la laissez pas tomber.
Il y a une drôle de bête dans mon ordinateur qui scrute à la lorgnette les mouvements de mon curseur. Un truc du genre poilu, une espèce de vrille qui voit tout ce que j'ai vu du fond de sa coquille. Mais qu'est-ce que c'est? Un petit mouchard, espion de l'OPSI. Pour le revoir, je suis prête à des folies. Je nage dans tous les torrents, je pirate tous les wifi en méga uploadant mes cafés. La dopie. Le lendemain matin, j'allume ma machine, il me dit ça finit bien. Et d'une voix câline, me lit mon courrier, ouvre mes favoris, je commence à m'habituer à sa compagnie.
C'est vrai qu'il est plutôt mignon.
Mon petit mouchard, espion de l'OPSI. We'll be right back.
mais que fait la dopi?
Le troisième jour, quand je me reconnecte, c'est de l'amour que j'ai pour mon insecte. Oui, mais il est parti, me dit dans un fichier.
Ma mission est finie, tu devrais changer d'IP.
Mon petit mouchard, espion de la psy, pour te reprendre, je suis prête à des folies. Je nage dans tous les torrents, je pirate tous les wifi, en méga applaudant, mais que fait la dopi? Mon petit mouchard, espion de la psy, je ne veux pas croire.
L'espion de l'Opsy qu'on entend à la fin, qui fait quick quick, qu'on retrouve sur le site de la Parisienne Libérée.com, tout attaché sans espace évidemment et sans accent évidemment aussi. Et vous retrouvez évidemment les paroles de cette magnifique chanson. Donc une artiste à découvrir. Elle ne précise pas sa licence, hélas. J'ai essayé de la contacter, mais pas de réponse. Une chanson qui est sortie le lundi 15 février quand même. Ce n'est pas si vieux que ça.
De retour sur les nouvelles du front et on prend appui sur cette musique pour présenter la news suivante. Le projet Odebian. Donc c'est un live CD Linux anti-lopsy. Je t'écoute.
Odebian est la réponse de la Ligue au débit au projet de loi Lopsy adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. Comme on le disait précédemment, le texte doit être encore examiné par le Sénat. Cependant, pour la Ligue au débit, il n'est pas question d'attendre un hypothétique retournement de situation. Le projet Odebian vise à préserver la vie privée et la confidentialité des internautes.
Donc, à peine adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, que déjà des outils anti-lopsy se mettent en place. N'est-ce pas merveilleux ? Donc, c'est le cas de la Ligue au débit, qui s'est montrée très critique envers le projet de loi porté successivement par Michel Alliot-Marty, puis Brice Hortefeux, en déployant le projet au Debian. Donc, il s'agit d'une distribution Linux basée sur Debian et proposée sous la forme d'un live CD, c'est-à-dire pas besoin d'installer, vous l'entrez dans votre ordi et voilà, ça se lance tout seul. Donc le tout de ce live CD est paramétré pour une protection maximale de la vie privée.
Le projet Odebian se veut accessible au plus grand nombre grâce au principe donc du live CD. Il n'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. Il suffit simplement d'avoir le projet gravé sur un CD et de régler le démarrage de l'ordinateur sur le lecteur de CD, donc, plutôt que sur le disque dur. Cependant, pour les plus néophytes en informatique, il sera également possible de lancer le projet grâce à une clé USB.
D'ailleurs, comme l'explique le site du projet Odebian, devra fournir un système accessible à tous nos concitoyens, Madame Michu compris. Donc, le genre de truc à avoir dans sa poche afin de pouvoir utiliser de manière sécurisée n'importe quel ordinateur où que l'on soit sur la planète. Ce qui impliquera de notre part, un travail de test et d'intégration pour fournir un outil simple d'utilisation.
Pour l'heure, le projet en est à ses débuts. La Ligue au débit lance donc un appel à tous les internautes souhaitant participer à Odebian afin de le rendre plus efficace possible. Par défaut, Odebian intégrera notamment des outils de chiffrement et cherchera à faire transiter les connexions à travers Tor, un réseau décentralisé œuvrant pour l'anonymat des internautes. Et puisqu'il s'agit d'un live CD, l'ordinateur ne conservera aucune trace d'installation.
Eh oui, donc rappelons que les principales dispositions sécuritaires concernant Internet touchent le filtrage des sites pédopornographiques par les FAI, la mise en place de logiciels espions dans les ordinateurs des particuliers ou encore la création d'un délit d'usurpation de l'identité sur le web. Autant de mesures qui ont provoqué des débats polémiques dans la société civile et dans la classe politique, donc, et aussi dans votre radio préférée.
Donc on voit très bien que une nouvelle loi arrive et déjà elle n'est même pas à peine votée ou disons en train d'être lue ou relue que déjà des moyens de contournement existent. Et ça, on l'avait déjà vu avec l'Adopi.
Mais c'est normal, une nouvelle technologie sort, des nouveaux logiciels, tout ça. Enfin, le monde change, le monde bouge, l'informatique est en réaction. Donc on ne pouvait espérer mieux.
Comme disait Benjamin Bayer sur une interview sur Public Sénat que j'ai visionné il n'y a pas fort longtemps, ceux qui veulent rester anonymes ont déjà 3 longueurs d'avance sur la loi.
Eh bien, on peut espérer que cela reste le cas. Donc cet article nous était proposé toujours par le site Numérama sur www.numerama.com et vous pouvez retrouver le lien vers ces articles sur divergence-fm.org. News suivante, donc nouveau conseil d'administration au sein de l'April. Maintenant, on part sur des news quand même un peu plus joyeuses.
Un peu plus joyeuses, évidemment, suite à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale avec toutes ces assemblées. Qui s'est passé donc le week-end dernier, l'April a le plaisir de vous annoncer l'élection de son nouveau conseil d'administration qui sera cette année présidé par Tanguy Morlier.
Je suis désolé, je rêvais un peu. Tu m'as parlé de l'Assemblée nationale de l'April. J'avoue que c'est assez tentant comme idée. Mais bon, on va continuer. Donc, administrateur depuis 2007, Tanguy Morlier est investi dans les communautés du libre depuis 2001. Donc, membre actif de Copyleft Attitude 2 et de Stop DRM 3, il a rejoint l'April en 2006 en participant aux actions menées durant la loi DADVSI depuis 2 ans. Il est en charge des dossiers entreprise et économique au sein du conseil d'administration.
Benoît Cibot, l'ancien président donc de l'April, déclare « Après avoir passé 5 ans à la tête de l'association, il m'a semblé important pour l'April de favoriser l'émergence de nouvelles compétences. Donc je resterai bien évidemment investi dans l'association, notamment en participant au travail du conseil d'administration. »
Donc, citation, « J'espère pouvoir continuer le travail mené par Benoît ces 5 dernières années lorsqu'il est devenu président. L'association ne comptait que 500 membres et n'avait pas de permanent. Il quitte ses fonctions avec un bilan incroyable. L'April est supporté maintenant par plus de 5000 membres et a su rendre pérenne ses missions de défense et de promotion du logiciel libre en embauchant 3 salariés. Donc le fait que Benoît reste au bureau et accepte de m'épauler en tant que vice-président est pour moi très important. Voilà ce qu'a déclaré Tanguy Morlier.
Au-delà du changement de président, le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'association s'illustre par l'arrivée de François Poulain au poste de trésorier et Lionel Allorge au poste de secrétaire, ainsi que par l'entrée au sein du conseil d'administration de Rémi Boulle, Anaïg Scara-Denis pour les intimes, Alexis Monville et Rana Stramboliska. Afin de respecter la limite statutaire du nombre de membres, le départ de Tony Bassett, membre fondateur de l'April, Estelle Falsi, Éric Leclerc et Jérémy Monet est à noter. Donc l'April remercie chaleureusement pour l'excellent travail fourni au sein du conseil d'administration, donc ses membres sortants.
Donc, l'April promeut et défend le logiciel libre depuis 1996. De 1999 à 2009, sans faillir dans ses missions de valorisation du logiciel libre, elle a été très active pour informer sur les dangers des brevets logiciels, des verrous numériques ou des mouchards filtrants. L'année 2009 a été particulièrement riche, comme en atteste le rapport moral, Adopi FreeSoftwarePack.eu. Participation à la mission Fourgous, etc. Donc 2010, au vu de l'actualité politique, pourrait permettre à cette équipe renouvelée de pouvoir enfin rééquilibrer ses efforts et ainsi mieux valoriser les activités apriliennes de promotion du logiciel libre.
Une info que l'on retrouve et que l'on conseille à consulter donc sur www.april.org.
Et je pense qu'un petit moment, un peu de musique, tout ça, ça fait du bien. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus joyeux.
Oui, on va aller du côté de nos net labels bien connus, un net label orléanais qui n'est autre que Fresh Pulp Records. Ceux qui sont adeptes et fidèles de Aller Libre Ma Musique le connaîtront ou le reconnaîtront, avec donc le titre Estune par l'artiste Zazen, et c'est du dub et c'est sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Et on va toujours au bout des morceaux chez nous, Divergence Numérique, où elle est libre, ma musique, parce que des fois, on a des surprises à la fin, des petits cadeaux des artistes comme Estune, disons Estune, ça c'était le titre du morceau, comme Zazen, l'artiste sous le label Fresh Pulp Records, fresh-pulp.net ou sous dogmazic.net aussi, vous retrouvez tout ça, et c'était en Creative Commons by NCSA 3.0, toujours sur donc Divergence Numérique 93.9 FM sur Montpellier et alentour, et divergence-fm.org pour divergence-fm.org pour ceux qui nous écoutent à travers les petits paquets IP non filtrés.
On retourne sur les nouvelles du front. Et nous avons, lors des dernières émissions, longtemps cassé du sucre sur le dos de Google.
Ou du bois.
Mais voilà, mais notre travail est avant tout de transmettre des informations. Et donc la news est plutôt pour contrebalancer les actions passées. Du moins, c'est peut-être les
Google
actions.
Google nous a entendu.
Donc voilà, peut-être Google offre 2 millions de dollars à Wikimedia. Et Knoll alors, à ton avis ?
À croire que la célèbre devise de Google finira par devenir « Don't be evil, be generous ». Connue pour ses importants dons envers la fondation Mozilla, pourtant en concurrence directe avec Google Chrome, la firme de Mountain View en Californie surprend à nouveau en offrant 2 millions de dollars à la fondation Wikimedia, qui gère notamment l'encyclopédie Wikipédia. Or, il y a quelques années, Google lançait un projet concurrent Knoll.
Donc la nouvelle a d'abord fuité sur Twitter dans un message publié il y a quelques heures.
Fuiteur sur Twitter.
Voilà. Le fondateur de Wikipédia donc a annoncé que Google a donné 2 millions de dollars à la fondation Wikimedia. Ouverte en 2003, la fondation est responsable des nombreux projets gravitant autour de Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite. Nous retrouvons donc entre autres le Wikitionary, dictionnaire, Wikisource, texte dans le domaine public, Wikimedia Commons, les ressources multimédia, mais également Wikinews, information, Wikicote pour les citations, et encore Wikispecies, le répertoire du vivant.
Pour soutenir le développement de l'encyclopédie, les administrateurs de Wikipédia lancent régulièrement des campagnes de dons. Objectif, inciter les internautes à donner un petit quelque chose pour que le projet encyclopédique reste viable. Car sans argent frais pour maintenir les serveurs, obtenir de la bande passante et pour rémunérer les quelques employés de la fondation, nul doute que Wikipédia se serait rapidement effondré.
Donc ainsi donc soutenu par 240 000 donateurs, l'encyclopédie en ligne a récolté pas moins de 8 millions de dollars pour sa collecte de 2009. Avec le concours de Google, c'est 10 millions de dollars qui vont permettre à la fondation de poursuivre sa mission. Wikimedia est l'un des grands triomphes d'Internet, a déclaré Serge Brun, cofondateur de Google. Ce vaste dépôt de contenu généré par la communauté est une ressource inestimable pour toute personne en ligne.
Mais avec ce don important, quid de Knoll ? Non, j'ai bien lu, quid de Knoll. Il y a en effet quelques années, Google lançait son propre projet collaboratif. Mais à la différence de Wikipédia, qui mise sur le bénévolat et autorise même les internautes anonymes à participer, Knoll avait fait le pari inverse. Non seulement les auteurs des articles sont clairement identifiés, mais en plus, ces derniers ont la possibilité d'être rémunérés.
Doit-on comprendre que Google se désintéresse de Knoll ? La question reste entière. Ou bien l'entreprise américaine a-t-elle une vision de la philanthropie qu'elle se sent d'attaque pour soutenir la concurrence ? Bon, ce n'est pas forcément possible. Dans le domaine des navigateurs web, Google est connu pour ses généreux dons envers la fondation Mozilla, qui édite le fameux Firefox. Or, Google développe pourtant sa propre solution Chrome. Donc, on peut dire que Google participe à des activités sur Internet par volonté peut-être de ses dirigeants ou ne serait-ce que pour soutenir les projets.
Espérons que le fond est bon, en tout cas, que ce n'est pas pour dire que bon, ça y est, on se donne bonne conscience envers ces actions-là.
Eh bien, on peut encore souhaiter que tout cela évolue dans le bon sens. News suivante, nous allons parler de OpenOffice.org 3.0. Donc, cette version 3.0. Est disponible.
3.2.
3.2, ouh là là là, j'ai du mal.
3.2, évidemment. OpenOffice.org avec tous ces points. À bientôt 10 ans, l'ouverture du code source de Star Office. À l'époque, Parson date de juin 2000, souvenez-vous. Et la version 3.2 de la suite bureautique libre et multiplateforme vient d'être rendue publique le 11 février 2010. Il s'agit de la première version de l'ère Oracle et vraisemblablement la dernière avant le changement d'interface qui devrait être proposé cet été.
Donc en bref, OpenOffice 3.2 travaille plus vite, offre de nouvelles fonctionnalités ainsi que l'amélioration de celles existantes. Quelques exemples rapides. Donc le temps de démarrage à froid réduit de 46% pour le traitement de texte et le tableur. Prise en charge des polices OpenType basées sur du PostScript ainsi que sur la technologie de police Graphite, donc utilisée dans certaines langues, utilisant un alphabet non roman. Impress et Draw prennent en charge les commentaires précédemment connus comme notes pour le travail collaboratif. Et l'assistant de création de diagrammes inclut maintenant les diagrammes à bulles.
Bien que seuls des formats ouverts puissent assurer la pérennité des documents, la prise en charge des fichiers de suite propriétaire a également été améliorée. Pour plus de détails et précisions, une liste des améliorations est disponible. Et pour ceux qui n'auraient pas fait de mise à jour depuis la version 3.0 d'octobre 2008...
Ah, j'ai dû rester là, moi.
Ah voilà, t'as pas fait une mise à jour depuis, hein. Bravo. Donc faites des mises à jour régulièrement. Ça dépend des distributions parce que toutes ne suivent pas les mêmes numéros de version. Et donc, dans les différentes distributions, donc Ubuntu, Mandrake, on a des versions un petit peu antérieures par rapport à la version toute chaude. Donc, des listes de changements de la version 3.1 toujours disponibles en ligne. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer à openoffice.org et à ses extensions.
Donc vous pouvez retrouver ces informations sur le site de openoffice.org. News suivante, création du CNLL. Et oui, les grandes associations régionales d'entreprises du logiciel libre en France forment ensemble le Conseil national du logiciel libre.
Ça fait peur, ça. Le Conseil national du logiciel libre a pour vocation de parler au nom de l'ensemble de la filière économique du logiciel libre sans discrimination afin de faire connaître les bénéfices du logiciel libre dans le contexte actuel de relance économique et de faire entendre les demandes de ses membres auprès des pouvoirs publics pour un soutien à l'activité économique de la filière. Selon une étude de Pierre Audouin, consultant de l'OPIIEC, publiée début 2009, le logiciel libre représente un marché de 1,1 milliard d'euros en France en 2009 et connaît une croissance soutenue de plus de 30% par an malgré la crise.
Regroupant 10 associations représentant plus de 200 entreprises de toutes les régions de France, le CNLL aura une légitimité certaine dans son rôle de représentant de l'écosystème des entreprises du logiciel libre, au plan national bien sûr.
Donc les membres fondateurs du CNLL sont Alliance Libre de Nantes, si je me souviens bien, Cap Libre, Colibri, Cap Digital ou GTLL, Libertis, OSSATV, Telecom Valley, PLOS RHA, Pôle Nord, Pro Libre. Ces associations et groupements d'entreprises jouissent déjà d'une grande légitimité et mènent une action reconnue au niveau régional pour la promotion de l'économie du libre.
Donc, chacun de ses membres a nommé un représentant au sein du bureau du CNLL qui a élu Patrice Bertrand, porte-parole du Conseil.
Les représentants des membres se réuniront chaque mois pour faire avancer une feuille de route ambitieuse avec pour objectif principal de dynamiser et de structurer l'ensemble de l'écosystème des entreprises du logiciel libre en France.
Donc le CNLL est en effet donné pour mission dès l'année 2010 de représenter l'écosystème des entreprises du logiciel libre auprès du pouvoir public et encore beaucoup d'autres choses.
Donc vous pouvez retrouver cette news directement sur leur site cnll.fr. Allez-y. Et c'est bien. Je pense qu'on en parlera à Solution Linux en mars, puisqu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui seront présentes d'ailleurs.
Ils ont bien raison, parce que en plus, on aura bien de raison d'en parler, puisque leur objectif est bien de soutenir énormément de manifestations nationales, bien sûr. Donc, sûrement, on aura l'occasion d'en parler et peut-être de parler avec eux. On peut l'espérer, du moins. Une petite pause musicale ?
Une petite pause musicale avant de retrouver Mathieu Beck de la médiathèque de Téhéran avec, l'artiste Fresh Body Shop et son titre Angry Machine sous Creative Commons by NCND 3.0. Accrochez-vous. Et non, ce n'était pas Angry Machine de Fresh Body Shop, mais Relative Rhythm de IB One Dance. C'était en Creative Commons by NCSA. Et oui, à cause d'un bouton de souris super cliquant qui nous avait passé au morceau d'après. Mais ce n'est pas grave, j'ai plus qu'une cartouche dans mon Rivendell utilisé évidemment pour lancer les morceaux.
Donc maintenant, nous accueillons Mathieu Beck autour de cette table au niveau donc, de beaucoup de discussions en ce qui concerne les logiciels libres. Comment ça va ?
Bonsoir, ça va bien et vous ?
Alors tu m'as dit, tout début, avant qu'on commence à te poser des questions, tu voulais faire une petite remarque sur la musique.
Oui, en fait, en préambule, je voulais simplement saluer la haute qualité de ce qu'on entend, en fait. Et simplement dire que les Creative Commons avaient encore de beaux jours devant eux, puisqu'on peut atteindre vraiment une qualité qui est vraiment comparable à des groupes labellisés sur des majors tels que Rootsman de Londres ou Hyton. Je veux dire, il y a un gros travail maintenant sur le libre et dans l'économie du libre en ce qui concerne les Creative Commons, qui sont vraiment pour moi le vecteur d'avenir concernant la musique.
Et qui ne s'applique pas qu'à la musique d'ailleurs.
Tout à fait.
À des littératures, à des images, à toutes sortes d'œuvres faites par des artistes au sens très très large du terme.
Notamment Akimbe, qui était le grand pirate gourou, dont les œuvres sont Taz, par exemple, sont des œuvres qu'on peut télécharger justement sur Creative et en PDF librement. Donc c'est vrai qu'il y a toute une littérature autour du livre aussi.
Mais là, nous sommes là pour parler du libre, mais au sein de la médiathèque de Téhéran. Alors déjà, une petite présentation de toi, Mathieu. Tu agis en tant que quelle qualité tu as au sein de la médiathèque déjà ?
Alors, donc je suis animateur multimédia. Voilà, donc mon statut, c'est un statut de fonctionnaire territorial. C'est une médiathèque municipale, donc, qui a 10 ans à peu près. Et bon, c'est une communauté de 4500 habitants environ. Donc c'est une bien jolie médiathèque avec un espace multimédia assez conséquent. On a été vraiment dans les premiers, dans les rows à s'équiper avec bien sûr Montpellier, Sète et consorts, Saint-Jean-de-Védas bien sûr, que je salue aussi. Voilà, donc c'est très tôt, il y avait une politique d'informatisation. Et voilà, les Téhéranais sont sensibilisés vraiment à l'informatique.
Et en parlant de logiciels libres, quelles sont les news du côté de la médiathèque de Téhéran ?
Alors, on fait toujours avancer via notre blog et le site officiel de la ville. On fait toujours avancer des animations et donc on essaie de faire partir un petit peu à découverte des nouveaux systèmes alternatifs comme Linux avec les distributions Ubuntu par exemple. C'est vrai que je fais énormément de présentation, d'initiation, de vulgarisation autour des logiciels libres. La Framaki par exemple, du célèbre Framasoft. Et puis bien sûr, on suit vraiment très très très... on suit vraiment à la trace tout ce qui est actualisation justement des OpenOffice, justement les mises à jour qui sont pas anodines, hein, qui sont toujours très collaboratives et dans un esprit de solidarité.
Tu parlais d'informatisation donc de la médiathèque. On sait que la plupart des machines, hélas, sont livrées avec un système d'exploitation propriétaire. Oui. Quelle a été ta démarche en fait pour, passer sur du libre au sein de la médiathèque ?
Alors en fait, il y a deux façons de présenter le libre. Soit on part d'un système d'exploitation qui est propriétaire, exemple XP, qu'on a sur quasiment tous les postes à la médiathèque de Téhéran, et on installe du libre dessus. Hein. Soit on fait le choix radical de complètement formater un disque dur et de pouvoir installer soit en double boot, soit complètement donc un système d'exploitation Linux. J'ai fait ce choix radical sur deux postes. Je suis pas allé plus loin parce que je considère que pour l'instant, c'est expérimental à la médiathèque et que je pense que c'est déjà pas mal de présenter au grand public un autre système sans pour autant changer totalement leurs habitudes. Voilà. On est simplement là en tant que médiateur de l'information. Je ne suis pas dans un prosélytisme effréné, bien que je sois très très fervent dans toutes les formations, tous les cours que je donne du libre, et je le rappelle à chaque fois que je peux. Je rappelle quand même l'efficacité du libre.
Pour continuer à parler, ben tu dis que tu es un très grand fervent pratiquant du libre. Maintenant, quel est le discours que tu adoptes avec les gens qui viennent à la médiathèque ? Comment est-ce que tu prépares cette approche ?
C'est complexe. Je suis
question.
C'est assez complexe. Je suis dans une tension qui est un petit peu autre que la vôtre éventuellement. Par exemple, quand c'est vrai, quand on reçoit du public vraiment tous les jours, on a vraiment une sensibilisation à toutes les cultures et à toutes les façons de consommer. Et c'est vrai que, par exemple, à Téhéran, il y a très peu d'utilisateurs de Linux. Par exemple, ceci dit, énormément de gens qui possèdent du XP, du Windows 7, etc., me demandent, depuis que je présente Ubuntu, par exemple, me demandent de leur mettre le Ubuntu en double boot, pourquoi pas, éventuellement, pour un jour le découvrir et totalement passer sur ce système.
Et pourquoi est-ce qu'ils te font cette demande ?
Bien parce qu'en fait, je fais tout pour leur présenter justement les logiciels libres, en priorité, parce que nous, à la médiathèque, notre philosophie, c'est quand même, dans la promotion du libre, c'est quand même de pouvoir réduire la fracture numérique. Cette fracture numérique, dont on nous rabâche les oreilles, c'est pas qu'un concept creux, c'est vraiment une réalité.
Parle-nous de ce concept aussi.
Alors justement, nous, à la médiathèque, notre philosophie, c'est simplement que tous puissent avoir accès à l'information et sans critères économiques. Donc en fait, le logiciel libre et Ubuntu, nous sommes très, très fiers, quelque part. Et nous sommes fiers de pouvoir participer à cette réduction de la fracture numérique. Après, tout dépend de l'engouement que l'on va trouver dans cette initiation, dans cette découverte. Même si on porte ces valeurs-là, nous sommes que dans la médiation. Ce n'est pas notre rôle d'imposer ou d'influencer ou etc. Il faut simplement que les gens sachent. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir justement leur présenter autre chose.
Et comment le public est donc, j'allais dire, quand ils voient donc un nouveau système d'exploitation oui. ou qu'ils découvrent, comment ils le prennent, comment ils l'appréhendent, comment ils s'en servent. Est-ce que pour eux, peu importe quel est le moteur qui fait tourner la machine, ou c'est nouveau, donc voilà, bah, je m'y mets, ou... non, finalement, je vais rester comme mes copains. Quelles sont en fait les réactions du public face à ça ?
Ben parfois, je passe plus de temps à rassurer les gens en leur disant c'est pareil, vous allez voir, vous allez retrouver vos petits. C'est simplement un petit peu déstabilisant les cinq premiers jours, peut-être. Mais ensuite, c'est vrai que moi, je l'ai depuis 5 ans chez moi. Ubuntu, c'est vrai que j'ai fait les mises à jour tous les 6 mois, etc. Et c'est vrai que j'ai pas du tout été déstabilisé. À un moment donné, c'est simplement un choix que chacun peut faire.
Et donc ce choix est une chose. Tu parles de l'idée de se tenir au courant. Et c'est quel type de gens qui viennent se rendre, c'est les gens de tout âge. Je parle bien de catégories d'âge de gens.
Alors, j'ai beaucoup de personnes retraitées, des seniors. J'ai des pré-ados, beaucoup. Alors souvent, et des ados. Donc on dit souvent que les ados sont un public difficile à attirer en médiathèque. Or notre politique vraiment... à la médiathèque, c'est quand même de pouvoir cibler ces publics-là. En fait, c'est des ateliers de création, donc hebdomadaires, mensuels, autour du libre. Par exemple, l'autre fois, ça avait vraiment cartonné chez les ados et les enfants entre 12 et 16 ans. Ça avait été, par exemple, les montages. Les photomontages sous GIMP, donc le fameux concurrent libre de Photoshop. Et on avait fait carrément des t-shirts avec les photomontages réalisés par les gamins. Donc vraiment, on était parti vraiment de rien. Et au final, ils avaient un t-shirt personnalisé Et beaucoup reviennent et ils sont maintenant en autonomie avec ça, avec le photomontage. Rien que ça, moi, ça illumine ma journée, quoi.
J'imagine que ça doit être très enrichissant en termes de retour au niveau des personnes. Et quel retour tu as, toi, de l'utilisation de technologies du libre ? Si jamais tu pouvais nous donner un retour général qui t'est donné suite à ce genre d'atelier ?
Je trouve que les jeunes en général sont complètement décomplexés par l'informatique. Et il y a eu une énorme pression par rapport à l'informatique en ce qui concerne les adultes. Les adultes, j'ai l'impression que dès qu'on dit qu'on ne maîtrise pas un logiciel, on a l'impression de ne pas maîtriser quelque part une partie de notre vie. Donc je veux dire, il faut un petit peu se désacraliser l'outil, et moi je suis là en tant que médiateur pour vraiment le rendre le plus accessible possible. Et bien sûr, on est sur de la présentation quand même et de l'utilisation de logiciels libres assez sauvage, hein, quand même. Même si on a des systèmes d'exploitation propriétaires, on pousse vraiment les ateliers, on pousse la réflexion autour du libre assez loin.
On va donner quelques informations pratiques pour que vous, si vous êtes du côté de Téhéran, bah, vous puissiez aller à la médiathèque, une médiathèque qui est donc ouverte, peut-être quelques horaires, quelques spécificités sur justement ces ateliers ou
Alors oui, nous sommes ouverts du mardi au samedi. Et donc nous sommes ouverts très largement de 9h à midi et de 14h à 18h en moyenne, sauf le jeudi où nous sommes ouverts que de 16 à 18. Pour les compléments d'information pour les horaires,
le site internet,
oui,
peut-être
vous pouvez donc vous connecter sur le site officiel de la municipalité de Téhéran, et plus précisément pour les animations et le développement des animations sur la médiathèque, sur le blog que nous avons créé, qui est le http://mediateran.wordpress.com. Donc nous avons fait ça avec du WordPress, bien sûr.
Voilà on retrouvera, on mettra le lien sur notre article de divergence numérique, évidemment. Je te remercie, Mathieu,
merci
de ta venue.
Vous.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Et un petit passage musical, là ?
Un petit passage musical avant l'agenda du libre avec le morceau Samba Olé de DJ Gazin Shoot, qui est grenoblois. Coucou aux grenoblois. Creative Commons by NCSA 3.0. On va se le laisser en fond puisque c'est by NCSA 3.0. Je le dérive en fond musical et je peux puisque la licence me le permet. Samba Olé, ça c'est le titre par Digigazine Shoot. Tout ça pour envoyer
l'agenda du libre.
L'inévitable agenda et incontournable agenda du libre.
Donc, pour l'agenda du libre, rapidement dans la région, le mardi 23 février de 14h30 à 16h30 à Castelnau-Lez, un atelier Linux. Donc, Montpellier Libre, en collaboration avec le centre André Malraux, organise des ateliers destinés à répondre aux attentes du public dans le domaine des logiciels libres, Linux, systèmes alternatifs et bien d'autres choses. Donc, ces ateliers auront lieu tous les mardis de février de 14h30 à 16h30 à la MJC André Malraux, donc 10 avenue de la Moutte, 34 170 Castelnau-le-Lez. Pour information, c'est la bus ligne 35, arrêt Collège Basile. Sachant que jeudi prochain, ce sont les Last Jeudi, le dernier jeudi du mois.
Last Jeudi au Mumple Lounge, qui se trouve place Saint-Côme, qui est organisé actuellement, et je dis bien actuellement, par l'association Mumple Libre, et qui invite tout, et je dis bien tous, étoiles, tous, il y en a qui s'excluent eux-mêmes, alors qu'il ne faudrait pas, hein, mes chers amis, vous m'aurez compris. Donc au sens large du terme, hein, on invite tout le monde, acteurs du libre, entreprises, associations, on range ses couteaux, on boit un verre entre ensemble et on parle librement. Ensemble, voilà.
Donc voilà, bah merci pour cette émission de Divergence Numérique numéro 64. Merci avant tout donc à Mathieu Beck de nous avoir rejoint pour cette émission. Donc Montpellier est bienvenue à la médiathèque de Téran.
Pour une install party peut-être, ou des ateliers, ou des découvertes. En tout cas, ils sont proches du public et tout le monde a une place dans le libre. Vous l'aurez compris, merci à Naël.
Ben voilà, merci beaucoup Pascal. Merci
Élie à la technique, ne clique pas trop vite. Merci à vous qui nous écoutez sur le 93.9 de Divergence. Merci à vous, net auditeur, sur les paquet IP de divergence-fm.org, site incontournable évidemment, et puis on vous dit
à
la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, oui. Terror states, weapons of mass destruction. Uh-oh. Weapons of mass destruction. Uh-oh. Weapons of mass destruction. They will not hesitate to use them. They will not hesitate to use them. Weapons of mass destruction. They will not hesitate to use them. They will not hesitate to use them.